Audible Studio présente Les Aventuriers de la Mer. Tome 1, Le vaisseau magique, de Robin Hobb. Traduit de l'anglais par A. Mounier-Lompré. Lu par Vincent Deboire. Prologue. Le nœud. D'un mouvement puissant qui souleva un épais nuage de débris, Malkin s'éleva de la fange dans laquelle il se vautrait. Des lambeaux de mue s'éloignèrent de lui, emportés par les tourbillons de sable et de boue, tels les vestiges d'un songe au réveil. Paresseusement, son long corps sinueux dessina une boucle et se frotta contre lui-même pour arracher les derniers restes de son ancienne peau. Tandis que la vase retombait lentement, il se tourna vers la vingtaine d'autres serpents étendus dans les sédiments qui les grattaient agréablement. Il secoua la crinière de sa grande tête, puis banda son long corps musclé. « Il est temps, » trompeta-t-il de sa voix profonde, « l'heure est venue. » Du fond de la mer, tous levèrent dans sa direction leurs grands yeux verts, or et cuivre, qui ne sillaient jamais. Shriver, parlant au nom du groupe, demanda « Pourquoi ?»«
L'eau est chaude ici et la nourriture abondante. L'hiver n'est pas venu depuis 100 ans. Pourquoi faut-il partir ?»
Malkin s'enroula de nouveau sur lui-même. Ses écailles nouvellement mises à nu étincelaient dans la lumière bleue et tamisée du soleil. Le frottement aviva les teintes des faux yeux couleur or qui couraient tout le long de son corps et le désignaient comme l'un des détenteurs de la vision d'autrefois. Malkin possédait des souvenirs du temps d'avant le temps d'aujourd'hui. Ses perceptions manquaient de logique et de clarté car, comme beaucoup de ceux qui se trouvaient pris entre les époques, il était souvent distrait et incohérent. Il secoua sa crinière jusqu'à ce que son poison paralysant forme un nuage pâle autour de sa tête. Alors, il avala sa propre toxine et la recracha par les ouïes pour affirmer la véracité de ses dires.
« Parce qu'il est temps »
lança-t-il d'un ton pressant, et il fit brusquement volte-face pour foncer droit vers la surface, s'élevant plus vite que les bulles d'air. Très loin, au-dessus du groupe, il creva le plafond, bondit brièvement dans le grand vide avant de replonger et de se mettre à nager éperdument en rond, rendu muet par le sentiment d'urgence qu'il éprouvait.
« Certains nœuds sont déjà partis, » dit Shriver d'un ton pensif. « Pas tous, pas même la plupart, mais assez pour constater leur absence quand nous montons chanter dans le vide. Il est peut-être temps. » Sessura s'enfonça davantage dans la boue.
« Ou bien non, »
répondit-il d'une voix indolente. « À mon sens, nous devrions attendre que le nœud d'Aubraine s'en aille. Aubraine est plus stable que Malkin. »
Près de lui, Shriver s'extirpa brusquement de la vase. Sa nouvelle peau avait une saisissante couleur écarlate par contraste avec les lambeaux marrons qui pendaient encore de son corps. Elle en attrapa un grand morceau dans sa gueule et l'engloutit avant de répliquer «
Il vaudrait peut-être mieux que tu rallies le nœud d'Aubraine si tu doutes de la parole de Malkin.
Pour ma part, je compte le suivre vers le nord. Je préfère partir trop tôt que trop tard, si cela doit nous éviter d'arriver en même temps que des vingtaines d'autres nœuds et d'être obligés de nous battre pour manger. » Souplement, elle fit une boucle de son corps pour arracher les derniers fragments de sa mue, puis elle secoua sa crinière et dressa la tête. Son barrissement strident ébranla les eaux.
« Je viens, Malkin, je t'accompagne !»
Et elle s'élança pour rejoindre le chef qui poursuivait sa danse tournoyante au-dessus d'elle. Alors, l'un après l'autre, les grands serpents quittèrent la boue collante en y laissant leur peau morte. Tous, même ces suréas, montèrent des profondeurs pour se joindre au balai du nœud dans l'eau chaude juste en dessous du plafond du plein. Ils allaient partir vers le nord pour retrouver les eaux d'où ils étaient venus, dans le temps lointain dont bien peu se souvenaient.